première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
Richard III. En 1485, le roi défait, le meurtrier des enfants de son frère Édouard, le dernier des Plantagenêts, avait été enterré discrètement mais correctement par son vainqueur, le premier des Tudors. Ce début de printemps 2015, son squelette, récemment redécouvert, vient d'être réinhumé solennellement à Leicester. Les commerçants de la ville et les partisans de la réhabilitation de Richard III triomphaient. L'opinion est depuis longtemps amusée et abusée par un manège qui tourne parfaitement en rond. Les rois jusqu'ici bien considérés font l'objet d'une révision à la baisse et les rois mal cotés d'une spéculation à la hausse. Et ce petit boursicotage sans conséquence présente l'avantage de divertir. Dans le cas de Richard III, la BBC avait même organisé la reconstitution d'un procès pour ses téléspectateurs qui, constitués en jury populaire, avaient évidemment absous le roi. Un historien connu pour être le biographe à succès de Louis XI, Murray Kendall, a participé à cette réhabilitation. Il est curieux que dans son livre, il ne cite pas une fois Shakespeare. C'est tout de même Shakespeare qui pose les questions importantes. Pourquoi le mal gagne-t-il chez un homme qui aurait pu s'en affranchir? Pourquoi le mal fascine-t-il les autres qui n'en sont jamais innocents? Et pourquoi ce personnage qui a tout assombri passé et avenir par sa violence et qui à la fin échangerait son royaume pour un cheval, nous touche-t-il toujours par la grandeur de sa solitude?
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Aude Méret. Bonjour Aude Méret.
Bonjour.
Qui a publié il y a peu chez Ellipse un Richard III. Alors vous êtes directrice adjointe du LAMOP, c'est un des plus gros labos du CNRS en matière d'histoire médiévale.
Et de Paris 1.
Ouais. Alors vous pourriez nous parler, c'est d'actualité à Radio France, syndication, mutualisation, mais non. On va parler non seulement de l'Angleterre médiévale, dont vous êtes une spécialiste, mais du théâtre élisabétain, dont Shakespeare est une grande illustration. Vous avez d'ailleurs eu beaucoup de plaisir à plonger de votre spécialité au monde élisabétain.
Tout à fait. Shakespeare, pour tout historien de l'Angleterre médiévale, est quand même un passage absolument obligé et souvent un des premiers modes de découverte en fait, qui conduit à vouloir faire de l'histoire médiévale anglaise. Et même si je me suis aventurée sur des terres un petit peu plus lointaines que mes terres habituelles, donc à la fin du XVIe siècle, c'est vrai que le théâtre élisabétain est fascinant. D'autant qu'il est très différent du théâtre classique français, donc qui se met en place à partir des années 1560-1570. Et c'est vraiment une forme théâtrale très particulière, qui est caractérisée par l'importance de la rhétorique, puisque les pièces, alors dans le théâtre classique français aussi, mais c'est pas tout à fait la même rhétorique, c'est-à-dire que non seulement construit la rhétorique, mais en plus, enfin, dans le texte, mais dans l'organisation de la pièce.
Alors, je ne vais pas vous aventurer dans trop de terrain, dont vous n'êtes pas une éminente spécialiste. Enfin, on peut dire quand même un mot de l'archéologie. Il disparaît dans une bataille dont le site est absolument identifié, Bosworth.
Alors, il y a toujours une controverse sur le site précis où a eu lieu la bataille. En gros, il y a deux hypothèses, mais c'est bien à côté de Bosworth. Ça, on en est tout à fait sûr.
Il est inhumé correctement par son vainqueur?
Alors, à peu près correctement, parce qu'on sait qu'il a été, enfin c'est dans les chroniques contemporaines, qu'il a quand même été tiré, nu, traîné, etc. après la bataille, mais ensuite, il est inhumé effectivement à peu près correctement dans une abbaye, enfin dans un prieuré à Leicester.
Qui est détruit, sur lequel on construit beaucoup de bâtiments, mais il reste dans le périmètre de cette ancienne abbaye un espace qu'on peut explorer, un parking. Et sous le parking, on trouve, en 2012, une tombe. Quelle chance! On voit qu'il avait perdu sa couronne et aussi son casque. Hein, parce que le crâne est touché par une dizaine de coups très violents.
Oui, tout à fait. Apparemment, ça confirme en fait ce que disaient les chroniques contemporaines de l'époque, à savoir qu'il avait vraiment mal fini sur le champ de bataille, si l'on peut dire, et que ça, de ce point de vue-là, on a tout reconstitué.
Je ne veux pas vous transformer en généticienne, que vous n'êtes pas, mais enfin, comment reconstitue-t-on
Alors en fait, on a
l'ADN d'un
on
roi.
On a retrouvé des lointains descendants de sa sœur, Anne d'York.
17e et 19e génération.
Voilà, à peu près. Dont un menuisier canadien, voilà. Et on a réussi quand même, comme le squelette était assez bien conservé, à retrouver apparemment suffisamment de fragments pour reconstituer un ADN à peu près complet.
Vous êtes spécialiste d'archéologie sonore aussi ?
Pas vraiment non plus. Mais
parce que je recommande à nos auditeurs d'écouter ceci attentivement. Ils seront transportés dans l'avant-dernier siècle.
En 1890, la maison Edison fit cadeau à Sir Henry Irving d'un appareil d'enregistrement en cylindre, un des tout premiers. Et pour s'amuser, il enregistra tant bien que mal le fameux monologue de Richard III.
Henry Irving. Sir Henry Irving, parce qu'il a été anobli par la reine Victoria, grand acteur shakespearien. Hein.
Tout à fait. C'est un des grands, ce qu'on appelait les acteurs managers du 19e siècle victorien. Et c'est vraiment un des premiers à avoir énormément travaillé sur des mises en scène qui vont être reprises par la suite, notamment sur le plan des lumières, etc. Et c'est un des grands acteurs shakespeariens de la fin du 19e siècle.
Et lui, il a eu droit à l'abbaye de Westminster.
Apparemment.
Il a été le premier incinéré à être recueilli à Westminster. Entre cet enregistrement 1890 et nous, 125 ans, et entre le règne de Richard III et les différentes versions du Richard III de Shakespeare, à peu près la même durée ?
À peu près, à quelques années près. Effectivement, il y a un siècle entre la mort de Richard III et la pièce de Shakespeare, et donc presque autant que... entre cet enregistrement et nous.
C'est-à-dire pas beaucoup de temps.
C'est-à-dire pas beaucoup de temps.
Par rapport au millénaire, vous comptez en millénaire, vous, en historienne du Moyen-Âge. Hein ?
Alors, on essaye de compter quand même en siècle.
Cette pièce, Richard III, elle est conçue par le jeune Shakespeare pendant qu'il achève la suite des trois épisodes d'Henri VI. Alors là, il faut que vous nous racontiez Henri VI.
Alors, Henri VI...
Attends, accrochez-vous, auditeurs. La guerre des deux roses.
La guerre des deux roses, c'est une histoire légèrement compliquée. Pour essayer de résumer au plus simple, il faut remonter en 1399, quand Henri IV de Lancastre, donc le premier Lancastre, a bouté hors du trône Richard II, qui était donc le dernier roi plantagenet direct, et a pris le pouvoir. Après Henri IV, c'est Henri V, le vainqueur d'Azincourt, donc, qui a réussi à conquérir une bonne partie du royaume de France, qui était aussi plongé en pleine guerre civile. Mais Henri V meurt jeune en 1422, et son fils, Henri VI, donc, n'a que 9 mois au moment de l'avènement. Et à partir de là, tout va aller mal en Angleterre. C'est-à-dire qu'ils vont peu à peu, surtout après l'épisode de Jeanne d'Arc à la fin des années 20, donc perdre de plus en plus de terres en France. Et surtout, au niveau de la politique intérieure, ça commence à se passer très mal. Et encore plus mal quand on s'aperçoit qu'Henri VI ne peut pas jouer son rôle d'arbitre.
Oui, il est un peu frappé d'hébétude à certains moments.
Exactement, il a la même maladie que son grand-père Charles VI de France.
Alors, ça c'est les Lancastriens, c'est la rose rouge.
Voilà.
Et naissent aussi des partisans, des Yorkistes de la famille d'York. Alors, et là, c'est la rose blanche.
Voilà, et en fait, Richard d'York, donc c'est un autre descendant d'Édouard III, un roi du 14e qui a eu beaucoup d'enfants et de pléthore de petits-enfants. Et donc, Richard d'York, en 1450, est un des personnages les plus puissants du royaume, y compris sur le plan patrimonial. Et il se bat, en fait, contre le parti de la cour, qui est dominé par Suffolk, notamment, à l'époque, et Somerset. Et petit à petit... Les événements vont s'enchaîner parce que la situation politique est très difficile, les finances sont très difficiles, la couronne est très endettée, les divergences sont très grandes, et ça va mener finalement au fait, je vous passe les détails, qu'il va réclamer le trône en 1460.
Et donc c'est le fils de Richard d'York, Édouard IV, qui parvient à s'emparer de la couronne, la rose blanche l'emporte sur la rose rouge. Je vous passe les détails, le retour pendant quelques mois d'Henri VI qui est sorti de son hébétude, et Édouard IV va régner jusqu'en 1483. Alors, vous avez tous suivi, Richard III, c'est le frère de cet Édouard IV. Un frère qui a une forte puissance dans le nord de l'Angleterre, mais qui est loyal.
Alors, Richard de Gloucester, donc qui est fait duc de Gloucester à l'avènement d'Édouard IV, est effectivement très fidèle à son frère pendant toute sa vie. Et son frère lui laisse construire une puissance inédite dans le nord, parce qu'en général, dans le nord est dominé par plusieurs familles, en partie à cause de la guerre avec presque constante avec l'Écosse.
Alors, petit portrait maintenant, si vous le voulez bien, de Richard quand il va approcher des marches du trône. En matière de représentation de Shakespeare, on revient à Shakespeare, le spectacle de référence, c'est la version de Laurence Olivier, qui a fait l'objet d'une production filmée anglo-hollywoodienne, dites-vous, 1955. Il y a eu des représentations aux États-Unis de ce film. Passé à la télévision en même temps qu'il sortait.
Voilà, tout à fait. Il a fait un des plus gros scores d'audience de l'époque.
Et puis, il a été évidemment présenté à Londres devant des personnalités du meilleur monde.
Madame Spanier, qui est directrice de Pierre Balmain et qui a un petit accent anglais car elle est d'origine anglaise, elle tient à ce que nous le précisions, arrive précisément de Londres. Je crois, Madame Spanier, que vous êtes allée à la première de la présentation de Richard III devant la reine Elisabeth.
Oui, c'était une représentation, ce qu'on appelle en Angleterre Royal Command Performance.
Où ça avait lieu?
Au Leicester Square Cinema. Tout le monde était assis. Et on avait inventé une loge royale au premier rang du balcon en entourant les deux premiers rangs de fleurs.
Comment est le film?
Le film est magnifique, magnifique. C'est vraiment épique.
I that am rudely stamped and want love's majesty to strut before a wanton ambling nymph. I that am curtailed of this fair proportion, cheated of feature by dissembling nature, deformed, unfinished, sent before my time into this breathing world, scarce half made up.
Vous savez par cœur le monologue où Richard III se présente physiquement.
Alors c'est le discours, c'est un véritable discours d'ouverture, effectivement, c'est un des monologues de Shakespeare les plus connus. Et donc je peux vous donner la traduction, même si c'est quand même moins bien que l'anglais. Au son lascif d'un luth à la tendre musique, moi, mon corps n'est pas fait pour ces galants services, ni pour poser devant un amoureux miroir. Moi, mal bâclé, qui n'ai la majesté d'amour pour parader devant une nymphe aguichante, moi qui suis dépouillé de cette belle taille, que frustre de beaux traits l'hypocrite nature, difforme, inachevé avant le temps jeté, au monde qui respire, à demi fait à peine, de façon si boiteuse et si mal agencée, qu'à me voir claudiquer près d'eux les chiens à bois.
Mais lui qui avait pour emblème héraldique le sanglier, il ne ressemblait pas nécessairement au crapaud bossu de venin qu'ensuite décrit Shakespeare.
Alors en réalité, d'ailleurs les analyses récentes de son squelette l'ont montré, il avait effectivement une scoliose. En revanche, il n'était pas du tout difforme et bossu comme ça a été, comme c'est le cas dans Shakespeare. Ça, c'est une invention de chroniqueurs de la fin du XVe et des historiens du début du XVIe.
Édouard IV vit donc ses derniers jours en 1483 dans la pièce de Shakespeare avant même que le roi ne meure. Les jeux d'influence commencent autour de ses deux fils, ses héritiers, dont l'aîné n'a que 13 ans à peine. Richard a été nommé protecteur de ce jeune fils. Il va en fait l'isoler et l'enfermer à la Tour de Londres. On fait un peu un tour des représentations de Richard III. Et là, c'est un extrait d'un documentaire qu'Al Pacino a consacré à Richard III.
Tout à fait.
Et le commentateur qu'on va entendre, c'est quelqu'un qui explique aux Américains qui ignorent tout de Shakespeare ce qui se déroule devant eux et leur paraît obscur.
Bienvenue à Londres, gentil prince. Oh, vous, le souverain de mes pensées. Eh, cette longue route vous a rendu mélancolique.
J'aurais aimé voir ici d'autres oncles pour m'accueillir.
Aimable prince, ces oncles qui vous manquent étaient dangereux. Votre grâce a écouté leurs douces paroles sans percevoir le poison de leur cœur. Que Dieu vous préserve d'amis aussi trompeurs.
Dieu me préserve des amis trompeurs, mais ça n'en était pas.
Si nous reprenions notre route, monseigneur, moi-même et mon bon cousin Buckingham, nous irons voir votre mère pour la prier de nous accueillir à la tour.
Vous allez vivre dans la tour, monseigneur?
Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette tour?
Oh, rien.
Pourquoi Richard les installe-t-il dans la tour?
Parce qu'il va les tuer, voilà pourquoi.
La tour est traditionnellement l'endroit où on exécute les gens, où on coupe les têtes seulement. Il y a énormément de pièces là-haut. La tour peut aussi servir à des réunions, à des réceptions. Il y a des salles prévues pour ça, mais il y a un endroit spécifique quelque part là-haut où Ou en fait, où ils font la chose, quoi.
Et c'est comme ça que Richard III peut devenir le roi. Ça, quand même, au Moyen-Âge, c'est un crime parmi les plus odieux, l'assassinat d'enfants.
Tout à fait, tout autant que maintenant, en fait. C'est-à-dire que même si les Anglais avaient une certaine habitude d'usurper, enfin d'usurpation, parce qu'il y en a quand même plusieurs rois qui ont été déposés au XIVe et XVe siècle, les meurtres d'enfants, comme ça peut l'être maintenant, étaient très très mal considérés, et plus encore quand c'était un héritier du trône.
L'été, il peut se faire couronner, vous faites dans votre livre chez Ellipse une carte du parcours qu'il va opérer dans le royaume pour se faire reconnaître, mais dès l'automne 1483, il doit affronter une première révolte.
Oui, parce que en fait, la société politique anglaise, même si sur le moment, certains ont dit qu'elle avait été complètement abasourdie, s'est vite repris. Et dès le mois d'octobre, il y a des révoltes importantes. Le problème étant que ces révoltes, il y en a eu plusieurs en fait, qui n'ont pas été coordonnées.
Celui qui essaye de les coordonner, c'est un nommé Henri Tudor. Il faut retenir ce nom parce que pour l'instant, le voici comme une épine infectée dans le pied ailé de Richard III. Alors ici, pause musicale. Alors on pourrait essayer de restituer la musique à la cour royale. On pourrait se demander pourquoi Richard III n'a pas fait l'objet d'adaptation d'opéra, comme d'autres pièces de Shakespeare. Ça pourrait être le travail de France Musique, parce que quoi qu'on dise, France Musique, c'est indispensable dans le dispositif de Radio France. Alors nous, modestement, on présente une chanson anonyme. Il faudrait un confrère de France Musique pour identifier l'auteur que nous avons trouvé sur le net en 2011.
I was sure that you'd love me, to that hope I did cling, 'cause I'm Richard III, and everybody loves a king. Can you imagine it? I'm the last Plantagenet, beaten by Henry in the Wars of the Roses. The Tudor dynasty didn't care that much for me. Now I'm painted as a baddie, that's why one supporter. Never forget when you hear of my crimes. Never drown my brother in a massive vat of wine. Never set a horse, my kingdom for a horse. Who made that up? Why, William Shakespeare, of course. Now my tale is told, you won't hear a bad word about a special ruler, King Richard III. I'm a nice guy.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Aude Méret, nous parlons de Richard III. Qui a inventé cette formule que je n'ai pas dite, mon royaume pour un cheval? Qui a inventé tant de choses sur mon compte, dit cette chanson? William Shakespeare, bien sûr. Alors Shakespeare écrit dans un autre contexte politique, à un moment où les humanistes essayent de dire qu'il faut construire une monarchie faite de mesures, d'équilibre, et qui recherche le bien commun.
Tout à fait. Alors ça, c'est pas une idée récente, c'est-à-dire que ça fait un moment, mais à l'époque élisabéthaine, on voit effectivement l'affirmation d'humanistes qui essayent de mener le gouvernement dans cette direction, même s'ils n'y arrivent pas toujours. Cela dit, Shakespeare s'inspire énormément des humanistes du début du XVIe siècle, des premiers Tudors, et c'est à partir notamment de Thomas More qui compose son portrait de Richard III.
Vous nous parliez tout à l'heure du théâtre élisabéthain à Avignon cet été. Thomas Stermeyer va donner 11 représentations de Richard III. Ce sont les représentations venues de la Schaubühne de Berlin, et on va aménager l'opéra-théâtre d'Avignon comme un théâtre élisabéthain. Où il faut imaginer que les acteurs, Ostermeyer aime beaucoup faire ça d'ailleurs aujourd'hui aussi, s'adresse au public. Richard III, il s'adresse au public sans cesse, il raconte au public ce qu'il va faire.
Tout à fait. Alors en fait, les premiers théâtres élisabéthains sont construits en amphithéâtre, avec la scène qui s'avance au milieu des spectateurs. Et du coup, les acteurs sont effectivement très près, et comme il y a très peu de décors, etc., tout ce qui se passe sur scène passe vraiment dans le texte que disent les acteurs. Et donc, il y a vraiment une intimité entre les acteurs et les spectateurs qui est très importante, même si ça pouvait être des très grands théâtres, pouvait y avoir 2-3 000 personnes.
Vous dites que c'est un théâtre pour l'oreille, où il y a un immense vocabulaire qui se déploie dans la langue de Shakespeare.
C'est une langue extrêmement riche, qui est vraiment la langue du XVIe siècle anglaise, qui est une très très belle langue, qui est extrêmement rhétorique aussi, mais aussi extrêmement musicale. C'est vraiment tout en... de ce qu'on a pu en reconstituer. D'ailleurs, la musique de l'époque anglaise est très réputée aussi. C'est pas tout à fait un hasard.
On attend donc de France Musique une émission sur ce sujet. Il y a un sens de l'image extraordinaire. Ils sont là, les enfants, qui vont être tués, l'un à l'autre, enlacés, de leurs bras innocents, une blancheur d'albâtre, ils se tiennent. Et leurs lèvres, ces quatre roses rouges sur un pied... Dans leur splendeur d'été, ils s'embrassent l'un l'autre, et sur l'oreille gît un livre de prière. Ça a failli arrêter le meurtrier. Il y a un sens de l'image.
Tout à fait. Il a vraiment. Enfin, Shakespeare est quelqu'un qui montre énormément par ce que ses acteurs disent. C'est vraiment à la fois très visuel et très, très imagé.
Alors, le roi, il est omniprésent. C'est pour ça que c'est un rôle très très difficile. Il faut paraître difforme et être là tout le temps.
Voilà, c'est un des rôles de Shakespeare qui est les plus exigeants pour un acteur shakespearien, même plus qu'Hamlet, par exemple, dont on dit généralement qu'il est particulièrement exigeant, parce que il est pratiquement dans toutes les scènes. Donc c'est exceptionnel pour l'époque.
Et donc quand on est omniprésent, il faut donner des points de vue différents à chaque fois. Ça apporte de la complexité et de l'ambiguïté au personnage, dont vous dites, Aude Meret, qu'il est aussi très habile dans les scènes de séduction. En voici une avec Lady Anne, qui est jouée par Francine Berger dans une mise en scène en plein air, cette fois au Festival d'Avignon, en 1966, de Roger Planchon. Le roi, c'est Michel Auclair.
Madame, je veux plus de bien à vous et aux vôtres que je n'ai pu faire à tous de mal.
Quel bien est recouvert par la face du ciel, qui une fois découvert pourrait mettre un bien.
L'élévation de vos enfants, noble dame.
À quelque échafaud, pour y perdre leur tête. Hâte-toi, de crainte que le récit de tes bontés ne dure plus longtemps que ta bonté même.
Sache que du fond de l'âme, j'aime ta fille.
La mère de ma fille, de toute son âme, le croit. Tu aimes ma fille, du fond de ton âme, comme tu as aimé ses frères. Et de tout l'amour de mon cœur, je t'en remercie.
Ne sois pas si pressé à mal interpréter mes paroles. Du fond de l'âme, j'aime ta fille. Et j'entends la faire reine d'Angleterre.
Et qui prétends-tu lui donner pour roi ?
Celui la même qui la fera reine, moi-même.
Et les femmes elles-mêmes se laissent séduire parce qu'elles ne sont pas complètement innocentes du mal, elles non plus.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'en fait, Shakespeare, dans cette pièce, montre toute la complexité de Richard, donc qui est tout aussi capable de séduire que de tuer et de se débarrasser de tous ses ennemis qui pourraient lui barrer la route. Mais il y a vraiment une grande complexité qui le rend si difficile à jouer aussi pour un acteur shakespearien.
1485, depuis un moment, vous vous souvenez de l'épine dans le pied d'Henri Tudor, Richard III s'attend au retour du dit Henri Tudor qui était en Bretagne. Qu'est-ce qu'il faisait en Bretagne?
Alors en fait, Henri Tudor était issu d'une branche cousine, donc qui a priori n'avait absolument aucune légitimité pour régner, mais une branche cousine de celle de Richard III. Et comme il était du côté de Lancastre, au moment de la prise du pouvoir d'Édouard IV, on a exilé beaucoup de jeunes aristocrates proches des Lancastre en France. Et en particulier en Bretagne.
Mais la Bretagne est encore indépendante à l'époque. Aude Meret joue un rôle différent de celui de la cour de Paris. Et Henri Tudor, il voudrait bien s'allier avec la Bretagne. En même temps, il craint un coup de main en Bretagne contre lui. Et que Richard III s'allie avec le duc de Bretagne. Et donc, finalement, il va se retrouver à Paris.
Oui, finalement, en jouant des divergences politiques à cette époque en France, il va se retrouver à Paris, donc à la cour des Beaux-Jeux, et réussir à leur extorquer de quoi financer sa campagne. Et donc c'est en partie avec des soldats français que Henri Tudor débarque.
Ces troupes sont quand même moins nombreuses et en principe devraient être mises en échec. Qu'est-ce qui est arrivé à Richard III, mauvais chef de guerre même s'il était brave, dites-vous, peut-être des erreurs ou des trahisons. En tout cas, ce jour tragique de 1485, il est extrêmement isolé, coincé dans un bourbier.
Allons, main en main, sinon au ciel, alors en enfer. Cet office a été très émouvant. Je pense que tout le monde a été très touché par la solennité du service. En particulier au moment où le cercueil de Richard III est descendu dans le sol et où l'archevêque a répandu de la poussière du champ de bataille et de sa terre d'origine sur sa tombe afin que sa terre reste avec lui pour toujours.
J'ai été surprise d'être aussi émue. Vous êtes touchée comme si c'était une vraie personne et pas seulement une boîte remplie d'os. C'est une très belle journée, je n'aurais jamais pensé voir cela.
Les cloches que l'on entendait sonner, c'est celles de 2015 et puis les mitrailleuses lourdes de la bataille de Bosworth. C'est une reconstitution d'un film de Richard Longren de notre époque. Alors, ce sont les funérailles solennelles, mais qui ne sont pas nationales.
C'est quand même un petit peu compliqué d'enterrer un meurtrier.
Pour Elisabeth II, oui. Sur les funérailles commerciales aussi.
Tout à fait, commerciales qui ont par ailleurs coûté très très cher, puisque on estime qu'elles ont à peu près coûté 2,5 millions de livres. En comptant la réfection de la cathédrale.
Oui, mais on peut toujours vendre quand on est en déficit, par exemple, des glaces à la rose, des mugs à l'effigie.
C'est l'idée.
De Richard III.
Ils ont ouvert un centre sur Richard III dont ils espèrent avoir beaucoup de visiteurs.
C'est le triomphe des réhabilitateurs. Il faudrait que vous nous disiez un mot quand même des réhabilitateurs qui ont commencé à tenir le haut du pavé à partir du XXe siècle et surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle.
Tout à fait. Alors en fait, pendant 2 siècles et demi, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il était un petit peu... Enfin, il avait mérité ce qui lui était arrivé, en gros. Et il y a une première tentative au milieu du XIXe siècle par une biographe américaine qui a écrit un livre sur lui pour commencer à dire « mais non, quand même ». Et la vraie réhabilitation, cela dit, arrive dans la première moitié du XXe, en particulier avec la création en 1924 de la compagnie du sanglier blanc, donc les armes de Richard, qui deviendra ensuite la Richard the First Society, et qui va vraiment faire de la communication pour réhabiliter ce pauvre roi maltraité. Et ça, ça a été permis aussi au niveau du grand public par un roman qui est paru dans les années 50 de Josephine Tay, qui disait qu'en gros, Richard III n'était responsable de rien.
Alors, il y a un commissaire de Scotland Yard qui est cloué sur son lit d'hôpital et on lui passe commande d'une enquête sur Richard III.
Voilà, tout à fait.
Et Richard III est la victime d'un complot, j'imagine.
Exactement. Hein. Et en fait, le vrai meurtrier, c'est Henri VII.
Voilà. Bien sûr. Un procès télé à la BBC.
Oui, en 1984, donc c'est vrai
un peu dans le genre Robert Hossein, voilà. Le procès des souverains français.
Tout à fait.
En général, l'opinion publique réclame la peine de mort pour les Clampins, mais s'abstient de réclamer la peine de mort pour les souverains. Là, il y a un jury populaire.
Il y a un jury populaire, effectivement, qui l'ont disculpé. Donc c'est une retransmission à l'époque qui avait fait énormément d'audience. C'est pareil à York aussi, il y a un musée où on peut simuler, donner son avis par rapport au procès, etc. Donc ça continue. Et c'est vrai que ça provoque un vrai engouement populaire en Angleterre depuis toujours.
Mais c'est un grand divertissement pour le peuple et sans conséquence. Cette histoire dynastique qui consiste à réévaluer les rois, puis à les rabaisser ou l'inverse, quel intérêt ça a profondément?
Alors pour l'historien, c'est pas forcément tout à fait comme ça que ça se passe, parce qu'on essaye de relire aussi des historiographies précédentes, et donc forcément la manière de faire de l'histoire évolue, donc la manière de percevoir les rois notamment évolue, mais pour les Anglais, Richard III reste vraiment un sujet de fascination totale.
Alors ça, c'est le divertissement du peuple. Et puis, disait-on, des pièces de Shakespeare sur les souverains, ces affaires-là sont des divertissements de rois, pour ainsi dire des pièces de théâtre. Simplement, elle se joue sur des échafauds. Votre livre aux éditions Ellipse, l'exposition sur les Tudors au musée du Luxembourg, et puis au mois de juillet à Avignon, la mise en scène de Stermeyer. Alors, on n'a pas dit, Mathieu Vidard, que Shakespeare était peut-être homosexuel, mais lui-même n'expliquait pas du tout que Richard III, qui avait beaucoup de défauts pourtant, ouais. L'était.
Mais votre thème. Je ne sais pas si on a des réponses à cette question, justement. L'homosexualité, est-ce une question pour la science? Ce sera le dossier dans un instant.
Le générique. La préparation, Elinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, Elisabeth Jacquinot, la réalisation, Jacques Sigal, la technique, Dimitri Gronoff. Il est 14h, vous l'avez entendu, vous êtes sur France Inter.